Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble!
Vite, paf, droite, gauche, droite. Sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit, naturopathie. Lymphe de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxe et podcast. Laurent Sicot parler, bienvenue sur le podcast.
En direct du meilleur podcast au Canada et probablement en Amérique du Nord. Je dis, on est rendu parler de l'Amérique du Nord. Ton podcast préféré, Laurent s'écoute parler. Là, il faut que je fasse attention parce que mon iPhone, là, tenez-vous bien, là, moi, j'essaie de combattre l'inflation. Puis j'ai des techniques assez simples, OK? Je vais vous donner mes trois trucs pour combattre l'inflation. La première, travailler plus. Ça, c'est une bonne stratégie, là. Si tu travailles plus, tu augmentes ton revenu. Si, exemple, je ne sais pas, tu as gagné 60 000 l'année passée, puis tu gagnes 66 000 cette année, ça fait une hausse de 10 %. L'inflation est à 4. Boum, tu viens de gagner la guerre de 6 %. Tu es plus riche. Tu as augmenté ton pouvoir d'achat. Fait que ça, c'est le premier truc. Travailler plus que l'inflation, que le rythme de l'inflation. Technique numéro 1. Technique numéro 2, dépenser moins. Je vais vous donner un truc précis. Hier, puis ça, c'est un truc aussi pour être heureux. Hier, je suis allé déjeuner avec la plus belle fille au monde. Je vous le dis, là. Je suis rentré dans place à déjeuner. Tous les gars se sont tournés. Le problème, c'est que la plupart des gars, ils déjeunent avec leur blonde. Fait que là, je les entends, les filles, tu sais. Franchement, tu l'as regardé pas mal, là, les gars. Ouais, mais vraiment belle. Ce gars-là est vraiment chanceux. Ça, ce gars-là, c'est moi, OK? Fait que ça, c'est un autre truc. Gardez-vous heureux. Allez déjeuner le samedi matin avec la plus belle fille au monde. Bon, là, c'est sûr que c'est moi qui l'ai. Mais, tu sais, trouvez, je sais pas, trouvez celle qui est en deuxième position. Trouvez-en une autre. Ben, moi, j'ai la plus belle. Puis, j'ai la plus gentille aussi. Mais, il y en a d'autres. Tu sais, trouvez-en une. Puis aller déjeuner avec. Puis en plus, moi, c'est pas pour me vanter, mais elle a payé mon déjeuner. Fait que c'est comme le meilleur des deux mondes. J'étais heureux parce que j'avais vu. J'ai passé du temps avec elle. Puis après ça, ben, ça m'a rien coûté. Je combats l'inflation. Fait que ça, c'est des petits trucs que je vous donne pour rester heureux. Puis là, ouais, je vous parlais d'inflation. C'est ça, un autre de mes trucs, OK, que je vais vous donner pour combattre l'inflation. Aller souper au restaurant, ça va vous coûter 100$. Pourquoi? L'alcool, la viande rouge, les soupers qui s'éternisent. Mon vieux truc, allez déjeuner à la place. Vous voulez impressionner votre conjointe? Amenez-la pas au Rib and Reef. Amenez-la chez Allô mon coco, puis espérez qu'elle reste dans le 2 œufs une viande. Ça, c'est un de mes trucs. Okay. Fini les soupers, on déjeune au restaurant et les gars, on a payé pendant une centaine d'années. Laissez-vous gâter. Madame veut payer, laissez-la payer. Assoyez-vous côté conducteur, laissez-la conduire. Le sexe faible, c'est nous autres maintenant. Mais maintenant, là, on va se laisser gâter. Donc, c'était ma chronique « Comment combattre l'inflation » avec mes petits trucs. 1. Gagner plus. 2. Dépenser moins. Et 3. Aller déjeuner au lieu d'aller souper. Je reviendrai avec d'autres trucs dans les prochaines semaines. Cette semaine en boxe, ben, il ne s'est rien passé. Il n'y avait aucun combat intéressant. Mais ben, je vous ai préparé 2-3 petits dossiers comme dossier numéro 1. Terence Crawford veut instaurer un syndicat en boxe professionnelle. Ben, je vais vous en parler. Ok, pourquoi? C'est parce que ça fait aucun sens. Puis là, ça a été repris par un journaliste québécois qui, je le sais, va faire ses recherches. Je vais parler au écouteurs, puis là, ça va avancer. Mais je vous le dis, aucun sens. Et je vais vous en reparler dans le segment numéro 1. On a appris, qu'est-ce qu'on a appris d'autre en boxe? C'est vrai, j'ai appris une couple de notes. C'était la fête à Virginia Sally. Ben, je vous dirai c'est qui ça, Virginia Sally, okay. Dans le segment numéro 2. Segment numéro 3, Jean-Michel Bolivar revient à la compétition. Il va se battre le 23 septembre prochain. On va parler des débuts, du retour de Bolivar. On va parler de qu'est-ce que Yann Pellerin essaie de construire pour le 23 septembre prochain. Il faut que j'arrête de m'accrocher dans mon iPhone. Je suis obligé de refaire toute la plupart des segments parce que quand je m'accroche, le son débarque. Là, tenez-vous bien. Là. C'est que la fille me l'avait dit, okay, quand elle a réparé mon iPhone, arrête, ne mets pas dans tes poches parce que les petites poussières de short, ils bloquent où ce que tu peux charger. Genre. Fait que là, c'est là que je plug mon micro. Fait que mon micro, il est comme pogné dans une petite poussière de poche, probablement. Là, ça fait reculer le micro. Fait que le son débarque tout le temps. Ça fait vraiment un podcast de bouette à écouter. Puis là, Martine Valabisson va me dire que je suis pas professionnel puis que c'est pour ça que j'ai pas le meilleur podcast au monde. Puis j'ai seulement le meilleur podcast en Amérique du Nord. Donc, j'étais rendu à vous dire que Simon Kane a reçu un offre pour affronter Joseph Parker. Et il est probablement que Parker avait fait la demande à 3 ou 4 boxeurs. Ça fait que si Simon, il n'a pas eu de combat. Mais on va en parler parce que ça nous montre vraiment où est rendu Simon, puis peut-être sa valeur éventuelle pour un combat où il ne sera certes pas le favori, là, mais il va pouvoir aller espérer, disons, dans un combat à l'étranger. On a aussi un... Je vais vous parler de ça dans un segment numéro 4. Le boxeur marocain Ayoub Mani qui passe chez les pros. Et là, je vais vous parler de Mo Latif qui est en train de construire une véritable armée. Mo Latif qui est un entraîneur qu'il va falloir mettre sur notre radar. Je vais parler de ma grande inquiétude pour Arslan Bekmakhmoudov. Et ce sera à peu près tout. On va faire une tournée à l'international. On va se promener. Le plus important, c'est que je n'accroche pas le micro. Ça fait un paquet de troubles. Qu'est-ce qu'on a? On va avoir beaucoup de galas aussi dans les prochaines semaines. Ça, je dirais que la vie repart le 7 septembre. Et là, on est le 20 août. Donc, je serai prêt. J'aimerais rappeler que ce podcast est une présentation de Fight Night. Fightnight.co. Monsieur, madame, tout le monde qui se battent dans une ambiance digne des professionnels. Allez sur fightnight.co où vous pouvez vous inscrire et écouter tous les galas du passé avec mes excellents commentaires. Ça coûte moins cher qu'une bouchée de pain à chaque jour. C'est 24,99 pour 6 mois, qui est l'aubaine du siècle. Combattons l'inflation avec fightnight.co. Vous pouvez vous inscrire si vous voulez être un athlète. Vous décidez que vous voulez virer votre vie à l'envers. 4 mois d'entraînement, on fait un Fight Night, on remporte la ceinture de champion du monde. Vous pouvez... Si Siama Kramati l'a fait, vous pouvez vous aussi, un 20 août, vous vous levez, puis vous dites « À Noël, je vais être champion du monde. » Mais c'est possible grâce à fightnight.co. Donc, allez consulter, inscrivez-vous. Vous avez rêvé de vous battre dans la vie, mais faites-le donc de façon structurée au lieu de le faire à sortie du Fuzzy de Laval. Donc, fightnight.co, mon seul et unique commanditaire. Je vous aime d'un amour profond. Cette semaine, on a vu dans les médias, et ça a été repris par Jean-François Chabot de Radio-Canada, que Terence Crawford veut créer un syndicat des boxeurs professionnels. Bon, premièrement, OK, qu'est-ce qu'un syndicat? Je vais vraiment vous faire tout un 10 minutes là, sur le syndicalisme et la boxe, OK? parce que j'ai étudié le dossier. C'est un 10 minutes qui m'a pris 10 heures à préparer. Premièrement, à quoi sert le syndicalisme? Okay, bon, c'est assez simple, là. C'est pour améliorer les conditions de travail et défendre les droits des travailleurs et travailleuses. On peut parler de salaire minimum, on peut parler de faire rémunérer les heures supplémentaires, on peut parler de santé, sécurité, de congés parentaux et de paternité, d'avoir des vacances payées et d'avoir une certaine protection contre la discrimination et le harcèlement. Okay. Bon, ça, c'est la job du syndicat. Dans l'histoire du Canada, bon, là, vous allez me demander, c'est arrivé quand? C'est arrivé en 1872 où il y a eu un premier groupe d'employés qui se sont organisés parce que eux, tenez-vous bien, ils travaillaient 12 heures par semaine, 12 heures par jour, 7 jours par semaine, ça faisait un total de 84 heures. Ils étaient dans une imprimerie. Et eux, ils ont profité du fait que le président de l'imprimerie, qui était, si ma mémoire est bonne, George Brown, il s'en prenait souvent au premier ministre de l'époque, John A. Macdonald. Puis George Brown, c'était, là, je vois vraiment de mémoire, c'était un éditeur puis un homme politique, c'était un réformiste. Donc, Macdonald, pour y mettre un peu les bâtons dans les roues, il a fait la première loi sur les syndicats ouvriers qui légalisait et protégeait les syndicats. Donc, ça a donné naissance au premier mouvement syndical au Canada qui a permis, eux autres, ils ont gagné la journée de 9 heures et ils ont fait des moyennes fêtes dans la rue. Ils ont fêté tellement fort que c'est devenu la fête du travail. Comprenez-vous? Et ce podcast-là, c'est-tu un podcast intelligent, pas à peu près? Là, après ça, 1913, il y a une autre grève. 1919, je veux dire, il y a une grosse grève pour le taux de chômage. Le taux de chômage est dans le plafond, il y a de l'inflation. Les gens avaient tous perdu leur emploi. Ceux qui travaillaient encore voulaient des salaires équitables. Ils se mettent à marcher dans les rues. Puis la GRC, les attaques à coups de chevaux. Ah ouais, des coups de sabot d'en face, il y a des morts, il y a des blessés. On va appeler ça le samedi sanglant qui met fin à la plus grande grève de l'histoire du Canada. Mais les répercussions, c'est qu'il va y avoir une réforme sur les lois du travail. Quand il y a bien des morts, c'est là qu'on fait une réforme. Bon là, on va aller vite. Là. Création de l'assurance chômage en 1940. Il y a eu la grosse grève chez Ford en 1945, où le syndicat résiste. Ils réussissent à gagner pas mal d'affaires, comme beaucoup. On gagne beaucoup sur la sécurité. Et bon, il y a eu d'autres choses. Là. On est tanné, là. Je ne vais pas vous parler de ça. Bon, mais là, on a compris à quoi sert un syndicat. Et là, à la boxe, il y a eu plusieurs, je dirais, tentatives d'avoir un syndicat. Premièrement, et je ne sais pas à quel point c'est intéressant, hein, comme, mais je n'ai pas le choix. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais je n'ai pas le choix d'en parler parce que ça va être le prochain talk of the town, la discussion de la rue. Okay? Et il y a eu Hassan Endam qui a essayé de créer un syndicat en France qui s'appelait ProBox. Je ne sais pas si ça existe encore. Il était avec d'autres boxeurs puis il voulait créer un syndicat. Il y a Terence Crawford de cette semaine qui a parlé d'avoir un syndicat. Puis c'est beaucoup ce qu'on entend, c'est que les boxeurs prennent leur retraite et ils n'ont pas de fonds de pension, ils n'ont pas d'assurance, ils finissent pauvres et tristes. Bon, c'est un peu résumé de manière violente, mais c'est ce que Terence Crawford a dit. Okay, il est en entrevue avec Bloomberg. Il a parlé de fonds de retraite, puis il a parlé de programmes pour rembourser les coûts des assurances maladie. Sinon, ben, Terence Crawford, il se serait inspiré de la grève des auteurs et des acteurs à Hollywood. Et c'est à peu près ça, OK? Bon, là, bon, vous savez que je t'ai rendu dans mon dossier, là. Il y a eu aussi Jake Paul qui, lui, est en guerre avec Eddie Hearn. Il prétend que Eddie Hearn donne seulement 15% des revenus aux combattants. Pour vous donner une idée, le hockey, c'est 50-50. 50% aux athlètes, 50% aux propriétaires. Et c'est un peu là que je veux vous mener. Okay? Je veux vous amener. Imaginez si on a un syndicat à la boxe. Si on prend juste le Québec, OK? D'un côté, on sait tous, vous le savez, je le sais, et M. Chabot, qui va écrire le texte, le sait, Eye of the Tiger tient parce que Camille et Stéphane investit probablement son petit change dans le fond de ses poches parce que c'est le plus grand trader au Canada, okay? Le plus grand planificateur financier. Pensez à combien ils ont vendu de billets dans la dernière année. Okay? Eye of the Tiger a fait, et là, ben ça, je pars avec ça, j'ai oublié de prendre des notes. Ils ont fait, on va dire, moins de 10 shows, okay, au Québec. Je vais le calculer, là, parce que je vais essayer d'avoir l'air sérieux, là. Je pense qu'ils ont fait, disons qu'ils ont fait 10 galas. Alors, on va prendre 2022, OK? Ils ont fait, on va dire, 10 galas. Fait qu'ils nous présentent 10 galas. Pensez au nombre de billets vendus. Il n'y a pas une fois qu'on dépasse 4000. On est au casino la plupart du temps. Ça fait. En 2022, Eye of the Tiger a fait. Et là, je vais vous le calculer. Ils ont fait 8 galas, OK? Dont 5 casinos. Fait que si j'y pense, là, puis je calcule, ils n'ont même pas vendu 15 000 billets dans l'année, OK? Pensez-vous vraiment qu'avec 15 000 billets vendus, une coupe de 11 piastres sur Punching Grace, puis la publicité, ils sont capables de payer Marc Ramsey, Antonin Descarrie, Virginia Sally, Andréanne Lambert, tous les autres employés qui sont là, le matchmaker loyer, les rentes qu'ils donnent à chaque boxeur, ça tient pas. Fait que ici, on n'est pas dans le 50-50 de partage des revenus. On est probablement que les revenus, on va dire, c'est 100. Ce qu'on donne aux boxeurs, c'est 150. C'est M. Estéphane qui s'amuse avec son argent personnel. Et je crois, malheureusement, que c'est la seule méthode qui peut fonctionner en boxe. Il va falloir que ce soit des milliardaires, des gens fortunés, au même niveau que Camille Estéphane. On peut parler de Yves Lévesque, on peut parler de Philippe Farley et de David Saint-Martin qui sont dans le. Qui ont autant d'argent que Camille, mettons. Il va falloir que ces gens-là. Je vais donner un exemple. David Saint-Martin, quand ça va faire 10 fois qu'il a fait le tour de l'Europe, quand Philippe Farley va être rendu, que ça fait 25 fois, il voyage 25 voyages par année. Là, il est tanné, il commence à être tanné des avions. Quand Yves Lévesque va avoir pris toutes les photos qu'il a besoin de prendre dans les shows pour faire les selfies, puis qu'ils soient tannés. Il va falloir qu'ils choisissent la boxe et qu'ils dilapident leur fortune personnelle pour aider la relève. Je ne peux pas croire et je ne peux pas concevoir présentement, avec les foules qu'on a, un modèle qui amènerait assez de revenus pour que le boxeur puisse avoir une bourse raisonnable, rembourser son camp d'entraînement et, par-dessus le marché, avoir de l'argent pour sa retraite. Pensez-y, il y a 553 personnes au casino d'un show d'Yvon Michel, puis c'est même pas disponible à la télévision. On va dire 553 à 100$. Rajoute 2-0, fait 55 000 de revenus, t'as payé tout le monde, une coupe de commandite. Je pense pas que tu peux dire à Caroline Vert, alors je vais rembourser tous tes frais d'entraînement, le travail que t'as pas fait, je vais te payer une bourse valide, et voici 8 000$ pour remplir ton CELIAP. Tu sais, voyons, ça tient pas. Fait que l'idée, c'est vraiment de garder, et c'est triste que je vais dire, tous les boxeurs dans pauvreté, en espérant en trouver un qui se ramasse en championnat du monde, puis là, collecter le 30% comme agent. Et ça fait quoi? Ça fait que t'as un Oscar Rivas une fois de temps en temps qui se bat chez les lourds. Ils vont, ramassent 30%, 300 000. Une cuisine, deux voyages, une moto. Boum, il a remboursé ce qu'il a investi sur Rivas. Et il repaye pour toutes les autres bourses qu'il a données que ces gars-là ne se réuniront pas en championnat du monde. C'est un peu le modèle qu'on a présentement. On est Eye of the Tiger espère collecter sur Mbili, Bazinian, Makhmoudov et Kane. C'est pour ça qu'ils investissent depuis des années. Et l'argent servira à financer Baudouin, Mathieu puis tous les autres. Puis c'est ça le concept. Il faut que tu frappes, on va dire, pour 300 de moyenne. Il faut que tu n'aies 3 sur 10 qui se ramassent en championnat du monde pour financer les 7 autres en sous-carte. Puis là, le système tient. Mais c'est pas vrai qu'il va avoir assez de revenus pour qu'on rentre du syndicaliste dans la boxe puis qu'on va rembourser les partenaires d'entraînement. On va payer ton essence pour aller vers le gym. On va payer ton IGA. Wow, calmez-vous, les amis, là. On se rendra jamais à ça, là. Jamais, jamais, jamais. Puis voyez-vous, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Un grief quand ça fonctionne pas? Yvon Michel a 70 ans. Je veux dire, s'il reçoit un grief sur son bureau, là, il va fermer la compagnie. Fait que j'ai bien hâte de voir, puis j'ai bien hâte de voir où ça va mener. Puis voilà. C'était l'histoire. Ça a déjà été. Brénal Boisvert aussi a parlé d'essayer de former. Lui, c'était plus comme. Je sais pas, peut-être que c'est un ordre professionnel. Là. Je ne suis pas un expert en. Faudrait que j'invite Philippe Farley en ondes, expert en relations de travail, parce que je suis de la misère à déchiffrer tout ça. Mais comment on pourrait créer un syndicat, quelque chose qui se tient, puis qui ne ferait pas que les compagnies de boxe feraient juste fermer au Québec? À suivre, mais c'était ta chronique syndicalisme et boxe. Toujours en direct de ta chronique préférée où tu vas apprendre des affaires. Là, je vais vous dire ce que je suis pas supposé vous dire, ce que je suis allé chercher, parce que j'ai remarqué que les gens qui me donnent des scoops, tenez-vous bien, ils m'écoutent pas. Fait que là, je peux vous donner des scoops que j'ai appris, puis jamais j'en réentends parler. Fait que là, c'est pas pire, genre. Fait que là, je vais vous donner des scoops, puis il m'arrivera rien. C'est de même. Pour scoop numéro 1, Virginie Assali fête son anniversaire. Puis là, je réfléchissais à ça l'autre fois. Tu sais, la femme de Yvon Michel, Stéphanie Drolet, on la voit beaucoup. Elle est assise au bord du ring, elle mesure 6 pieds 1. Elle fait du bruit, elle se fait aller les mains quand Adonis sommet du monde. Rapidement, on a comme appris à la connaître. Elle était très active sur les médias sociaux jusqu'en 2018-2019. Moi, elle puis moi, on a eu plusieurs arguments et je tiens à dire que je ne lui tiens pas rancune et que j'aime tout le monde. Donc, puis bientôt, avec Twitter, elle ne pourra plus me barrer parce que tout le monde qui a été barré va être débarré. Fait que je vais avoir 1000 amis qui m'ont barré dans ma vie. Donc, Virginie Assali est calme. C'est pas Alexandra Croft qui mesure 5 pieds 10, qui à l'époque était une mannequin, qui faisait des conférences parce qu'elle a géré Jean-François Bergeron, est impliquée avec Cédric Kouchner dans Heavyweight Explosion. Donc, c'est pas qui court les micros. Mais Virginie Assali est la femme la plus puissante en boxe présentement. C'est d'accrocher le micro. C'est notre Cathy Duva à nous. Et c'est tout un brin. Là. Elle doit mesurer un 5 pieds 1. Okay? Mais elle peut s'asseoir à la table avec n'importe qui pour négocier. Les ententes aux États-Unis, c'est elle. Il va avoir. J'ai une autre affaire que j'ai pas le droit de vous le dire, OK? J'ai pas le droit de vous le dire, je vais vous le dire. Eye of the Tiger est intéressé. Eye of the Tiger est intéressé à créer un. comment je vous j'essaie de trouver le bon mot, là, à créer une série de box en Floride avec les Snowbirds. Tu sais, toutes nous autres, là, les gens du Québec qui s'en vont se cacher en Floride puis qui regardent des shows de Joël Denis puis Ginette Renault. Puis, ben, ça fait beaucoup de Québécois. Okay? Fait que Eye of the Tiger, pendant qu'on gèle puis qu'il fait moins 37 ici, irait présenter quelques shows en Floride qui nous diffuserait sur Eye of the Tiger. Si le projet se concrétise, puis que j'ai bien compris, là, c'est qui a génie derrière ça? C'est Virginia Sally. Un autre scoop que je vais vous donner, que je ne suis pas supposé vous donner, le 21 octobre prochain, il y aurait un gala de poids lourd aux États-Unis que je parlerai dans un prochain segment avec Arslanbek Makhmoudov en demi-finale d'un ancien champion du monde. Qui négocie ces affaires-là aux États-Unis? Virginia Sally. Virginie, elle a 21 ans, elle se fait engager, elle veut travailler en boxe. Puis, ben, l'idée, là, c'est qu'elle veut, elle veut pas payer son abonnement à Underdog parce que c'est une jeune étudiante. Fait qu'elle décide de, elle s'offre pour travailler à réception où elle va devenir amie avec Mathieu Germain, Sylvera Louis, Big Lou qui combat le cancer, on le salue. Puis là, Virginie travaille au Underdog. Donc, un moment donné, elle voit Berman Stiverne, puis elle dit « Hey, j'aimerais vraiment ça travailler pour Eye of the Tiger avec M. Camille Estéphane. Tu sais, je pense que j'ai des qualités, j'ai des études, je connais les communications, puis tout. » Et là, je pense, je sais pas si c'est Berman qui glisse un mot ou quelque chose, mais elle va rentrer chez Eye of the Tiger, puis elle est prête à tout pour aider, là, laver, plancher, ou elle veut travailler en boxe. Ben, 12 ans plus tard, elle a tout fait. Elle a monté les échelons, directrice des communications, il n'y a rien qu'elle n'a pas fait, OK? Et là, aujourd'hui, elle est vice-présidente. Incroyable. Et là, elle connaît tout, elle sait tout, elle a tous les contacts en boxe, elle peut s'asseoir avec n'importe qui pour négocier. C'est la femme la plus importante de la boxe au Québec. Et là, elle joue au soccer aussi d'une ligue senior. Et là, j'ai compris qu'elle devait avoir 35 ans parce que c'était sa première année dans la ligue senior 35+. Puis, si je calcule, là, quand les articles de journaux que j'ai trouvés, elle a eu 35 ans, mais on n'a pas le droit de parler de l'âge des femmes. Donc, joyeux 35e anniversaire. Et quoi de mieux qu'avoir l'air de 28 quand tu fêtes tes 35, tu sais? Donc, bonne fête. Félicitations. Sainte québécoise, j'avais d'autres choses pour vous. Faire un petit détour. Jean-Michel Bolivar, 6 victoires, 2 défaites. Lui habite à Saint-Joseph-du-Lac. Boxeur défensif qui te laisse croire que tu vas frapper dessus à deux mains, lui bloque tout. Un moment donné, il se tanne, puis c'est à son tour. Tu sais, c'est un peu sa stratégie de boxe. Là, il va se battre le 23 septembre prochain contre Rudy René de Gatineau au MTELUS. Ben là, vous allez voir, ce Bolivar-là, il est toujours calme. Il est toujours gentil. Mais je sais pas, c'est bizarre, hein, parce qu'il est calme, il est gentil, il a le plus beau sourire du Québec, mais c'est pas quelqu'un qui s'énerve, c'est pas quelqu'un qui va se faire des grandes esclandes, mais c'est le gars le plus populaire de la rive nord du Québec, de Montréal, je sais pas pourquoi. Mais je sais parce qu'il est gentil pis tout, mais habituellement, les gens super populaires, ça va être des fortes personnalités, du monde qui crie. Lui, je sais pas, il s'est bâti une tonne d'amitié. Tout le monde aime Jean-Michel Bolivar. Et je vous prédis qu'il va vendre une tonne de billets pour ce combat de retour. Et lui, son idée, c'est qu'il aimerait ça que son fils puisse le voir boxer. Parce que là, il a un fils, il était trop petit la dernière fois qu'il a boxé. Puis là, il rendait assez grand pour comprendre à son prochain combat. Donc, c'est le retour du meilleur vendeur de billets en boxe au Québec, Jean-Michel Bolivar, le 23 septembre prochain, dans une carte de New Era. New Era, parlons-en, ils seraient, ou ils essayent, ou ils vont passer. Ils voudraient signer Ayoub Mani. Pour le moment, je ne sais pas ce qui se passe. Ayoub Mani, c'est un champion du Maroc qui habite ici maintenant, qui a aidé Jean-Pascal dans les dernières années avec ses préparations. Il mesure 6 pieds 3, boxe chez les 200 livres, c'est un gaucher. Mais là, présentement, selon ce que j'entends, c'est un gars qui est reconnu pour son jeu de jambes, très slick, très bon en défensive. Slick, c'est les habiles en déplacement, contrôle la distance. Mais Mo, il travaille sur lui pour en faire un boxeur complet. Il travaille sur lui pour en faire un boxeur qui est capable de mettre de la pression aussi, qui ne fera pas juste reculer, genre qui peut mettre de la pression, peut reculer. Il veut en faire un boxeur qui peut tout faire. Selon Mo Latif, mais là, Mo, c'est ça qu'il faut que je vous dise, Mo Latif est en train de devenir tout un entraîneur. Il entraîne Maslow McDonough, Kevin Menoche, Ayoub Mani, Arturo Gatti Jr. Et c'est juste le début, là. Il est en feu. Okay? C'est un gars qui a du caractère, un gars qui n'a pas peur de dire d'appeler un chat, mais à qui on reconnaît une grande compétence. Et là, ce mot latif-là, ce qu'on entend, ce Ayoub Mani-là, ce qu'on entend, c'est qu'il frappe excessivement fort. Il n'y a personne qui veut mettre les mitaines avec au Québec à son poids, donc il met les mitaines avec Alexis Barrière. Barrière est bien content, puis Mani, ben, ça y fait quelqu'un qui se batte. Donc, on va le suivre. Écoute, champion du Maroc, Jean-Pascal avait de l'intérêt pour le signer. Yann Pellerin sur le dossier. Je ne sais pas qui va le signer. Mo Latif s'en occupe. Au pire, il va le faire boxer lui-même. Il sera agent et entraîneur. À suivre. Dans mes autres dossiers québécois, je veux vous dire... je vais faire ce dossier-là en dernier. Ça va être plus simple. De source sûre, Simon Kane a reçu un contrat pour affronter Joseph Parker. Selon ce que j'entends, et là, je ne suis pas supposé vous le dire, mais on est vraiment entre nous autres, OK? Simon Kane aurait demandé 2 jours pour réfléchir à l'offre. Et entre-temps, pendant ces 2 jours-là, tenez-vous bien, il se serait juste entendu avec quelqu'un d'autre. Tu sais, il voulait son combat, tu sais. Il dit « OK, je vais juste réfléchir, donnez-moi le temps de parler à tout le monde. » Mais comme ça marche en boxe professionnelle, les gars comme Parker qui cherchent un adversaire, ils envoient 4 ou 5 contrats. Puis là, ils ont fait « Ben lui, il veut réfléchir, mis le contrat sur le côté, il y en avait 4 autres, il y en a un des 4 qui a dit oui. » Ils ont dit « Hey, bonne idée, boum, ils ont pris celui-là. » Tu sais, ça ne veut pas dire que Simon a pris une mauvaise stratégie, là. Ça veut juste dire qu'il négociait avec plusieurs personnes. Mais ce que ça me laisse croire, okay, c'est que Simon Kane, il est dans les discussions pour beaucoup de top 20. Tu sais, moi, je m'attends à ce qu'un jour, Simon Kane affronte Jared Anderson, affronte un Joseph Parker, affronte, exemple, un Daniel Dubois qui reviendrait après une défaite contre Usyk, affronte un Joseph Joyce qui repartirait une dernière... sa carrière après une 2e défaite contre Zaylee Zhang. Je m'attends à ce qu'il affronte Tony Yoka qui vient de perdre contre Carlos Takam. Je m'attends à ce qu'il affronte Carlos Takam, pourquoi pas en France. Je m'attends à ce qu'il soit appelé pour Bakodzir Jalolov par Top Rank. Je m'attends à ce qu'il affronte Guido Vianello finalement à Québec. Mais... je m'attends à quelque chose de gros, puis c'est ça que ça laisse croire, okay? Qu'un jour, le téléphone va sonner, puis Simon va avoir un gros combat. Où et quand, je ne sais pas, mais il suffit d'attendre. Attendez, les amis, et tout viendra à point. À qui c'est attendre. Il y a un dossier qui m'inquiète, conclusion et fin de ma chronique boxe québécoise. Je suis inquiet pour Arslanbek Makhmoudov. Puis là, j'ai un cahier Canada, je prends tout en note. De un, on dit le fait qu'il est russe, on dirait que ça ne plaît pas au diffuseur. Puis il y a beaucoup de gens qui me disent tant qu'il va y avoir un conflit, il n'y aura pas son combat de championnat du monde. Puis c'est comme complexe. Puis là, je regardais ça, tu sais. Usyk va affronter Dubois, il y a 3 ceintures en jeu. Il ne se rebattra pas avant 6 mois. Il va probablement être pogné Ergovic et son aspirant obligatoire ou Tyson Fury, tu sais. Pendant ce temps-là, Tyson Fury affronte Francis Ngannou. Puis je sais pas si c'est un combat pour le titre ou pas, on ne sait pas, mais visiblement, ça fait perdre du temps. T'sais. Mais là, tu regardes ça devant Makhmoudov à WBC, il y a Wilder qui affronte Joshua 1 contre 3. Okay. On peut penser que ça va devenir un combat d'aspirant obligatoire. T'sais. C'est quand même assez gros, Wilder, Joshua. Il y a Ajagba 14 contre Zan Kozubutski. Gagnant passe-tu devant Makhmoudov? Eh, peut-être. Il y a Jared Anderson qui est 7e qui affronte Andriy Rudenko. Si Makhmoudov ne boxe pas entre-temps, il arrive quoi? Il y a Chris Areola qui affronte Frank Sanchez. Et Sanchez gagne un rang. Pendant ce temps-là, on n'entend rien sur Makhmoudov et on n'a pas d'adversaire. Fait que j'ai fait des recherches. J'ai fait 25 téléphones. 5 en Russie. 3 en Nouvelle-Zélande. 2 en Belgique. 1 en France. Puis le reste, je les ai faits au Canada. 25 téléphones. Si je recoupe toute l'information que j'ai reçue, on va apprendre dans les prochains jours. Et une autre affaire que je ne suis pas supposé vous dire. Ce podcast-là, là, un jour, je vais me faire fermer. Ils vont dire, ce gars-là, il en sait trop. Ils vont me fermer le podcast. Selon mes sources, aux États-Unis, Joseph Parker a encerclé le 21 octobre, mais je ne suis pas sûr. Parker versus TBA. Demi-finale, Makhmoudov versus TBA. Puis ils vont nous faire croire que plus tard dans l'année, Makhmoudov versus Parker. Un peu comme quand Pascal et Edison Miranda s'étaient ramassés sur la même carte à Miami, puis ils nous avaient dit qu'ils s'affronteraient plus tard. Il commencerait à mousser une patente de même. Mais Makhmoudov serait toujours prêt à affronter Jared Anderson. Puis, tu sais, toutes les offres restent ouvertes. Mais là, ce serait Joseph Parker et peut-être la WBO qui éventuellement pourrait être laissée vacante par Usyk. Ou même, je sais pas, la IBF qui pourrait autoriser Ergovic. Usyk pourrait abandonner la IBF, puis là, ça prendrait un adversaire à Ergovic. On va peut-être contourner la WBC du côté de Makhmoudov pour aller voir ailleurs. Donc, mais ça, je suis pas mal sûr, là, Makhmoudov va se battre aux États-Unis en octobre prochain, diffusé sur Punching Grace. Vous pouvez en parler à votre famille. C'était ta chronique boxe québécoise. Toujours en direct d'une cuisine mal climatisée de Rosemont, Montréal, ton podcast préféré, Laurence écoute parler. On est rendu à la conclusion, les nouvelles internationales, mais la conclusion, ça dépend. Des fois, ça prend longtemps. Des fois, j'ai bien de la jasette. Gervonta Davis contre Isaac Pitbull Cruz serait sur le point d'être annoncé le combat revanche. C'est l'entraîneur de Gervonta Davis, Calvin Ford, qui prétend que c'est la meilleure option. Canelo Alvarez ne veut pas dire si dans son contrat de 3 combats avec PBC, le dernier, c'est David Benavidez. Il ne veut pas dire si c'est une clause du contrat. Il a été muet comme une crêpe. Daniel Dubois dit que sa stratégie est simple. Je vais frapper Usyk au corps violemment en début de combat. Il n'y aura plus de jambes. Comme ça, on va pouvoir le knocker. Excellente stratégie. Galay Wafai, qui était en finale d'un petit gala hier à Birmingham, a passé le KO première ronde à Tommy Frank. C'était pas mal le seul gala d'hier. Robert Hellenius veut revenir en janvier malgré qu'il s'est fait knocker violemment contre Anthony Joshua. Terence Crawford dit que Gervonta Davis n'a jamais fait face à l'élite de la division. Frank Warren dit que Joshua et Wilder n'arrivera jamais. C'est drôle, tu sais, parce que tantôt, moi, j'ai dit que ça arriverait. Ben, visiblement, j'ai pas les bonnes sources parce que Frank Warren, probablement, est mieux connecté que moi. Un jour, quand Berlanga est passé à 168 livres, j'ai dit qu'il était un meilleur prospect que Bazinian parce que Bazinian ne se bat jamais. Après ça, quand James Munguia est monté à 168, j'ai dit qu'il allait dépasser Christian Mbili. Malheureusement, parce qu'il est trop connu. Ben, tenez-vous bien. Berlanga, dont James Munguia. 11 novembre prochain, ce serait dans les cartons. Et penser que la WBC va sauter là-dessus. Deux des leurs, quasiment. Un Mexicain contre un Portoricain. Ils vont probablement donner un aspirant obligatoire ou quelque chose. Je sais pas comment qu'on va sortir Mbili de la tourmente. Terence Crawford prétend qu'il est prêt à monter à 168 d'une traite pour affronter Canelo Alvarez. Il dit « Ce n'est pas une question de size, c'est une question de skills. » Dimitri Bivol veut défendre son titre en octobre ou en novembre. On a appris aussi qu'il avait quitté sa femme. Des fois, c'est bon, ça. Tu peux comme être enragé. Ta femme te laisse, là, t'es enragé. Genre. Puis, il voudrait toujours affronter le gagnant de Beterbiev contre Callum Smith, selon ses sources. Et on s'attend à ce que Bivol affronte un de ses aspirants. Tu sais, c'est pas mal tout le temps ça, hein? Lequel, je sais pas. Il n'y a pas de noms qui ont coulé présentement. Sinon, dans mes nouvelles de la semaine, j'ai 3 pages ici, fait que je vais vous en donner une autre. Nestor Bravo a battu Will Madeira. J'aime bien Madeira. Il est tough. Sinon, on a eu les débuts pro de Cristal Rosedo. Je vous le dis en mentionnant que le podcast 120 secondes est disponible sur tous les médias sociaux. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ouais, la WBC a cancellé son appel d'offres entre Wilder et Andy Ruiz pour un éliminatoire final. Donc, ça veut dire qu'il en cherche un autre. Et j'imagine qu'il espérait que ce soit Joshua et ce n'est pas Joshua. Hey, on verra bien, arrangez-vous. WBC, vous aimez ça le trouble. Janibek Alim Kanouli, qui a un peu dévissé Steven Butler, va se battre en unification contre le champion de la IBF, Vincenzo Gualtieri. Ce sera pas beau. Ce sera pas beau, ça, les amis. Je préfère vous aviser. Mais ça va lui permettre de mettre 2 ceintures autour de la taille. David Benavidez, il lui reste 3 combats à 168 livres. Il attend toujours une chance pour un combat important. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma petite feuille? Tony Harrison a dit que Jermall Charlot est un idiot de monter à 168 contre Canelo. Puis je suis un peu d'accord avec ça. Si tout le monde restait dans sa division de poids, Canelo serait obligé d'affronter les meilleurs de sa division de poids. Là, c'est sûr que s'il y a tout le temps un 147 ou un 154 qui veut juste collecter la bourse de sa vie puis qui accepte d'y aller, c'est un tarlet. T'sais. En même temps, on peut comprendre. Là, c'est comme, je vais vous donner un exemple, je ne l'ai pas encore nommé aujourd'hui. C'est comme si Martine Vallière-Buisson recevait, qui pèse 122 livres, 126 ou 130 dans le ring, mais plus, non, Martine, c'est comme une 126, OK? C'est ça, j'espère que je ne me trompe pas, sinon elle va encore être fâchée après moi. Mais mettons, on va dire qu'elle boxe à 126, là, je ne suis même plus sûr. Puis là, elle recevait un offre pour affronter Cathy Taylor à 135. Et c'est sûr qu'elle va dire oui, là, puis qu'elle va manger 5 repas de poisson au lieu de 3 dans la journée. Mais en même temps, tant que les gens de 126 vont dire, tant que les gens de 2 divisions en dessous vont dire oui pour le prestige d'affronter les champions unifiés, mais ces champions unifiés-là n'auront pas besoin d'affronter les gens de leur division. C'est un peu ça le point. Là. Ça me fâche. Moi aussi, ça me fâche. Je suis d'accord avec Tony Harrison qui se prenait pour Floyd Mayweather en début de carrière parce qu'il venait du même patelin. Bon, Canelo veut boxer un autre 5 ans, prendre sa retraite à 37. Moi, je vais travailler un autre 14, je vais prendre ma retraite à 55.
Canelo s'est fait poser deux questions sur Benavidez. Il a dit « J'en ai ma claque ». Il a répondu ça aux médias. Il a dit « J'en ai ma claque ». Alicia Baumgartner testée positive à la mestérolone suite à son combat contre Christina Linardatou. Puis, ben moi, j'ai tendance à faire confiance à tout le monde, mais quand on voit les photos superposées de 2022 et 2023, je veux dire, en 2022, elle a la shape, mettons, de moi en 2001. Puis en 2023, elle a la shape de Philip Farley. Tu sais, fait que ça marche pas pantoute, là. C'est le avant-après n'a pas de bon sens, là. Fait que Philip Farley qui est un modèle de forme physique, puis moi qui ne l'ai pas. Tu sais, fait que cette fille-là est complètement transformée en un an. Puis Linardatou, elle l'a affronté dans les deux moments de sa vie, puis elle frappe bien plus fort. Fait que là, c'est dur. Admettons que c'est dur à défendre un peu. Tu sais. Il y a une photo, là, je pense qu'elle est avec son gérant ou je sais pas quoi, puis elle fait un double bicep dans un gala. Tu tabarouette, tu sais. Puis là, tu regardes les photos un an avant, elle est flat comme une fille qui s'est jamais entraînée à la plage d'Oka. Tu sais. Fait que ça marche pas. Là. Mais en même temps, je sais pas comment ça va finir, puis c'est jamais bon pour... C'est jamais bon pour le sport qu'on aime. Et c'était beau, ça. Les combats la semaine prochaine. Tabarouette, c'est long le podcast cette semaine. Parce que ça paraît quand j'ai rien à faire de ma journée. Hein, je vous placote ça. Les combats de la semaine prochaine, commandités par BoxRec. Liam Wilson va affronter Carlos Maria Alanis en Australie. Et en sous-carte, Nikita Zou affrontera Jack Brubaker. Les Australiens qui aiment faire leur gala important le mercredi. C'est une autre mentalité. Ils ne sont pas obligés de faire pareil comme nous autres. Sinon, là, j'avoue, je n'ai pas préparé la chronique à l'avance. Là. J'avais déjà 10 heures, je travaillais sur votre autre chronique. Fait que là, à un moment donné, j'ai comme craqué en... Lorenzo Simpson va affronter Vladimir Hernandez à Atlanta. Lorenzo Simpson, méga prospect que je vous aurai averti. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est tranquille la semaine prochaine. Rien pour se pitcher en bas du deuxième étage chez nous. Hein? Je pense qu'à moins, à chaque fois que je dis ça, j'ai oublié un gars important. Fait que... On va faire un dernier tour. Alexander Ruzic affronte Daniel Dubois. J'avais oublié ce léger détail. En demi-finale, Denis Berinchik affronte Anthony Yegit. Le gars-là a lieu en Pologne. Les Polonais sont arrivés et ont gagné le combat entre Ruzic et Dubois à l'appel d'offres. C'est pratique d'avoir de l'argent. Attendez-vous à ce que Ruzic batte Daniel Dubois une main attachée en arrière du dos. Et Anthony Yegit va en manger une joie le vert contre Denis Berinchik. Ce sera dans le domaine du pas drôle. Et après ça, ben, on va pouvoir, ça va être intéressant parce qu'après ça, on va repartir toutes les histoires de Usyk contre Fury qui aboutissent jamais. Puis c'est fatigant, ça, on s'en sort jamais. En Caroline du Nord, il y a le boxeur de Toronto, Sean Thompson, qui va affronter Edley Scott. Et sur l'autre poste, en soirée, F. Adjagba contre Zan Kozubutski et Jared Anderson contre Andrei Rudenko et Bakodzir Jalolov, le champion olympique, contre Onur Yode et Warien. Superbe gala poids lourd où tu veux rien manquer. Là. Ça c'est le gala un gala qui est le fun. Trois gros combats de poids lourds qui se frappent. À qui mieux? Et moi, ça c'est mon genre de soirée. On mange gras, puis on regarde des gens costauds dans la foule. C'était ton podcast préféré. Laurent s'écoute parler. Aujourd'hui, tu as le droit à du syndicalisme, tu as le droit à des poids lourds, puis tu as le droit à des scoops que je ne suis pas supposé dire, que je vais finir par me mettre dans le trouble. Donc, merci, je vous aime tous, mais surtout Martine Vallière-Bisson.